France Culture.
À Monsieur Monoury, ministre de l'Intérieur et des Lettres. L'on m'annonçait il y a peu de temps que le président Poincaré n'attendait que de trouver la formule d'un accord avec l'Angleterre.
Mademoiselle Marie Denisard se dit historien et publiciste. En réalité, elle n'exerce aucune profession régulière. Elle dit être créancière de l'État pour des sommes très importantes, mais elle prétend être victime de manœuvres et d'intrigues tendant à la spolier de son dû.
Monsieur le ministre, l'on m'a rapporté que vous aviez déclaré officiellement...
Elle semble vouer une haine particulière à quelques politiques notoires, à messieurs Clémenceau et Mandel notamment, qu'elle estime responsable de ses malheurs. C'est monsieur Poincaré qu'actuellement elle poursuit de son ressentiment. À diverses reprises, elle a adressé à différentes personnalités des lettres recommandées dans lesquelles elle se répand en critiques violentes et en doléances injustifiées. Les termes mêmes de ces lettres, les propos qu'elle tient dans son entourage, ses allures excentriques et l'état de surexcitation constante dans lequel elle vit, laissent croire au déséquilibre mental de mademoiselle Denisard, qui a déjà plusieurs fois attiré sur elle l'attention des services de police.
L'ordre de faire tuer mademoiselle Denisard pour garder son or.
Marie Denisard, de la présidentielle à l'asile. Un documentaire de Camille Desombres réalisé par Anne de Pelchin. Deuxième épisode, l'interminable internement. Bernard Kierzek, vous êtes psychiatre et chef de pôle à l'Institut Camille Miret, qui est la structure de prise en charge psychiatrique du département du Lot, autrefois appelée Asile de Leyme. À quel moment est-ce que vous situez le début de ce qu'on pourrait appeler la descente aux enfers de Marie Denisard ?
Il semblerait que les premiers stigmates donc datent des années 1915. 1915, donc il y a un rapport du préfet de police, donc à l'initiative, je crois, donc du ministre de l'Intérieur, demandant de vérifier si Marie Denisard n'était pas à l'origine d'un tract demandant donc la paix. Quand on regarde un tout petit peu donc les quelques éléments administratifs que l'on a, on s'aperçoit effectivement que Marie Denisard commençait, je dirais, à émettre des propos délirants sous la forme effectivement donc d'un complot contre elle. Elle n'hésitait pas à en parler tout autour d'elle. Elle habite encore sur Bordeaux et elle va monter donc à Paris où là effectivement les choses vont se dégrader assez rapidement. Et on a un deuxième courrier qu'elle a écrit donc qui date de 1920 à l'adresse donc d'un député dans lequel on retrouve tous les éléments donc délirants de ce complot hein. Ce complot d'abord est concentré sur la personne de Raymond Poincaré hein, et au fur et à mesure ce complot donc va s'étendre à d'autres personnes, va devenir un complot international puisque il fait intervenir donc les États-Unis sous la forme d'une spoliation donc de droits d'auteur dont elle pourrait bénéficier et que la Banque de France derrière lequel il y a le gouvernement donc empêche qu'elle puisse toucher ses droits d'auteur supposés. Elle dit aussi que les Américains lui ont donné donc la nationalité américaine, qu'elle a servi donc la France et qu'elle est à l'origine effectivement de la victoire de la France. Et il est fort probable que justement donc en 1926, alors qu'elle réside donc dans un hôtel à Paris avec sa maman, probablement effectivement qu'elle devait, comme on le constate dans ce type de pathologie, crier un petit peu partout, donc haranguer donc les voisins, les accuser de tout un tas de choses, ce qui a amené donc le propriétaire de l'hôtel à aller auprès donc du commissariat de police du 5e arrondissement pour intervenir. Hein, donc ça s'est passé donc le 28 avril 1926. Donc les forces de police vont venir dans son hôtel, vont donc l'amener directement à la préfecture de police, puis à l'infirmerie générale qui se trouvait dans les mêmes locaux. Elle va donc être vue par Gaëtan de Clérambeau, qui est un grand maître de la psychiatrie à l'origine de descriptions de pathologies psychotiques et délirantes.
La nommée Denisard Marie-Eugénie est atteinte de psychose complexe. Actuellement, quérulence basée sur délire imaginatif, avec léger appoint interprétatif, dans un orgueil pathologique et dans l'illusion de création spéculative. Quérulence portant sur l'idée de propriété intellectuelle et de notoriété mondiale. Fond paranoïaque avéré. Insociabilité ancienne. Supériorité continue. Ambition, instabilité. Vraisemblablement, hypertonus psychique existant. Publiciste et agitatrice, thèmes sociologiques et politiques. Réformation. Candidature aux élections municipales, législatives et même présidentielles. Présentation euphorique et dominatrice. Logorée, combativité, dénutrition, incapable de se sustenter. Cette personne, en conséquence, est dans un état mental qui nécessite son placement dans un asile d'aliénés.
Certificat médical de Gaëtan de Clérambault, 20 avril 1926.
Cette hospitalisation donc à l'infirmerie générale durera jusqu'au mois de janvier 1927. Elle va être transférée donc à Vaucluse. Là encore une fois donc même conclusion de la part du médecin qui va donc la recevoir et l'examiner avec présence effectivement donc d'un délire de persécution évoluant sur un terrain paranoïaque. Quelques mois plus tard, donc, elle va être transférée donc de l'hôpital de Vaucluse sur le transfert de Laim. Et lorsque Marie Denisard arrive à Laim, elle est vue immédiatement donc par le psychiatre de l'époque, qui confirme effectivement la présence d'un délire chronique et de revendications à thème politico-social.
Alors là-dedans, il y a deux diagnostics très très différents en quelque sorte.
Hervé Guillemin, historien de la psychiatrie.
Il y en a un qui est un peu vague, on va dire psychose complexe, qui me surprend pas complètement, parce que moi j'ai lu beaucoup de dossiers d'archives des années 1920, et on voit bien que beaucoup de psychiatres, notamment quand ils voient pour la première fois un patient, mettent un diagnostic assez général. Donc psychose complexe, ça me surprend pas complètement. Alors c'est quand même Clérambault, donc effectivement c'est un personnage important dans l'histoire de la psychiatrie parce qu'il a été le maître de Lacan, puis c'est quelqu'un qui réfléchit un petit peu sur la psychose, la paranoïa, et je crois que c'est un petit peu dans ce temps-là, 1910-1920, que justement émerge cette notion que vous évoquez dans le deuxième certificat, la notion de revendication, quoi. Les revendicateurs, on devrait dire les revendicatrices, là, en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est assez souvent des femmes qui sont considérées comme revendicatrices. Alors, il faut bien dire que les gens qui sont psychotiques, hein, psychose complexe et psychotique, ils sont souvent désignés comme des gens qui sont négatifs, résistants, il y a tous ces mots-là, voire nihilistes, des gens qui résistent en fait, qui résistent à tout, à la famille, au travail, à l'armée, à l'institution psychiatrique. Surtout, ce qui embête beaucoup les psychiatres, c'est ceux qui écrivent tout le temps, quoi. Alors ça, j'en ai vu des dossiers, des archives vraiment volumineuses avec des patients qui écrivent au procureur de la République. Ceux-là, ils sont insupportables en fait pour les psychiatres de ces institutions. Et donc j'imagine que là, derrière revendication politico-sociale, ce qu'on décrivait chez Marie Denisard, c'est une espèce de tendance à se plaindre en écrivant aux autorités. Donc voilà, mais pas très fréquent ce diagnostic.
Priscilla da Silva, biographe de Marie Denisard.
Concernant la forme de paranoïa qu'on va lui mettre sur le dos de psychose, effectivement, au regard du rapport du psychiatre, il y a des notes assez étranges où elle dirait que c'est grâce à elle que la bataille de la Somme aurait été gagnée, qu'elle serait l'étendard féministe en France. Elle parlerait beaucoup, elle défendrait voilà, plein d'idées. Mais là où je vais aussi insister, c'est que le rapport du psychiatre a aussi stipulé parmi ces choses-là, qu'elle a candidaté à des élections. Ça a l'air d'être retenu contre elle comme une forme de folie. Et aussi, quand bien même, encore une fois, les rapports des psychiatres attestent une maladie, il y a quand même, je pense, une forme de misogynie et de sexisme ambiant dans lequel aussi baignent les psychiatres et qui peut se ressentir aussi dans ce rapport.
Et de fait, dans son délire, il y a des fonds de vérité, c'est-à-dire que elle a été en effet lésée économiquement au moment du cri des femmes. Elle est de fait surveillée par la police. Elle est empêchée politiquement. Elle est persécutée, on peut le dire de cette manière, par la presse.
Oui, tout à fait. Cette candidature à l'élection présidentielle, elle s'est quand même reçu une vague de haine sexiste, misogyne à ce moment-là, quand bien même ça lui a fait de la publicité à l'échelle internationale, on peut tout à fait penser que ça a un impact sur la santé mentale comme sur la santé physique.
Est-ce que vous connaissez d'autres cas de militantes féministes internées ?
Fort malheureusement, je connais d'autres cas de féministes.
Mathilde Larrère, historienne.
Internée, les plus connues, c'est Aria Lee, qui, de fait, est dans un état de détresse morale terrible. Elle tente de suicider, y échoue. Et d'ailleurs, c'est ce que montre très bien d'ailleurs Priscilla da Silva dans son mémoire. Ces vies de militantes sont des vies extrêmement dures, extrêmement traumatisantes, extrêmement fatigantes, de violence, de délégitimation, de moquerie, d'échecs. Donc, c'est très souvent des femmes qui, à la fin, sont fatiguées psychologiquement. C'est sans nul doute le cas pour Ariely et peut-être aussi pour Marie Denisard. Et d'autres, en fait, c'est des répressions. Là, l'exemple, c'est Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier, c'est d'autant plus terrible que c'est la première femme psychiatre de notre histoire. Soutenue par la Fronde, elle devient psychiatre. Et à la fin des années 20, elle défend avec d'ailleurs une grande modernité le droit des femmes à disposer de leur corps. Et elle va pratiquer des avortements. Elle se fait arrêter et on ne l'emprisonne pas pour ça. On l'interne et elle mourra dans son hôpital psychiatrique. Depuis le 19e siècle, la psychiatrie s'est largement construite sur des bases extrêmement sexistes. Et l'arrivée de Freud n'a pas arrangé les choses. Et le 19e siècle est le grand siècle de l'internement des femmes. Et le 20e siècle, les travaux qui sont menés en ce moment tendent à montrer qu'il en est de même. Donc cet internement des femmes est malheureusement une donnée très répandue. Et comme on considère que, je dis « on », c'est-à-dire l'essentiel de la société à cette époque, mais que la place des femmes est au foyer, qu'elle n'est sûrement pas dans l'arène politique et sûrement pas à se battre pour des droits, une femme qui sort de cette place... Elle est forcément un peu tarée quelque part pour ces gens-là. La voie vers l'internement psychiatrique, elle est facilement creusée, en fait.
Moi, je travaille, je cherche, en fait, des dossiers de patients et de patientes qui sont les premiers schizophrènes de France, en quelque sorte, dans plusieurs institutions. Et je me suis assez rapidement aperçu qu'en cherchant, ce mot schizophrénie est celui qui lui... précède la démence précoce chez les jeunes adultes, quoi, c'est comme ça que c'est caractérisé, je trouvais quasiment que des femmes. Et là, moi, j'étais hyper surpris. Ça ne correspondait pas du tout à ma représentation de la schizophrénie actuelle, en tout cas. Donc, j'ai cherché dans plusieurs fonds et je me suis aperçu qu'effectivement, 70%, 80% des déments précoces et schizophrènes des années 20 et 30, c'est des femmes. Si on regarde les manuels de psychiatrie qui construisent ces nouvelles entités morbides au XXe siècle, démence précoce et schizophrénie, on s'aperçoit qu'il y a des discours extrêmement, misogynes, qui pointent le fait que l'émergence d'une nouvelle maladie psychiatrique au XXe siècle est liée à la volonté de s'émanciper des femmes. Ça, c'est vraiment important. Dans les années 1900-1910, on voit plein de psychiatres qui tiennent ce discours-là. OK, les femmes veulent s'émanciper, vont faire des études de plus en plus longues, et ça va porter un nom. Ça va porter le nom de démence précoce. Donc, il y a quand même une espèce d'a priori social qui vise des jeunes femmes en cours d'émancipation, et la psychiatrie, en quelque sorte, elle a un discours à porter là-dessus, quoi.
Alors si Marie Denisard vit à ce moment-là à Paris, pourquoi décider de la transférer à Leim, qui est quand même très loin de Paris et assez isolée dans le Lot ?
Quand on arrive à Leim, déjà, on passe entre les champs, on passe par une forêt. l'asile de Leim a l'air assez reclus. C'est assez intéressant puisque ça veut dire que si une personne tentait de s'enfuir, en fait, il faut traverser la forêt, il faut traverser les champs, donc c'est assez impossible. Et donc, quand on arrive, on est sur un ancien domaine cistercien, donc c'était religieux, donc c'est des bâtiments à deux étages, des bâtiments en pierre. Quand on arrive et qu'il fait beau, c'est très agréable, c'est des beaux bâtiments, mais faut imaginer une forêt en hiver, enfin voilà. On peut avoir une atmosphère qui peut être assez dure sur cette période-là. D'ailleurs, Marie Denisard le fait remarquer dans ses lettres.
On a quelques photos de l'époque. C'était des grands dortoirs. Hein. C'était des lits en bois sur lesquels il y avait de la paille. Hein. Alors, à l'intérieur, les femmes pouvaient effectivement faire de la couture. Les hommes, eux, allaient dans le jardin. Puisque ces asiles, en tout cas celui de Leim, mais dans d'autres endroits c'est pareil, ont vécu en autarcie, ce qui leur a permis pour certains asiles de franchir, je dirais, la période de 39-45 sans trop de dommages.
Moi, l'expérience que j'ai du travail dans les archives de ces institutions privées de soins psychiatriques, parfois à but lucratif, c'est que d'abord, ce sont des institutions qui accueillent des gens qui sont transférés, déracinés, parfois même doublement déracinés. C'est-à-dire des gens qui bougent beaucoup. Et donc, pour une institution de soins, moi j'ai plutôt un peu l'impression qu'on a affaire à une institution un peu maltraitante, quoi, dès l'origine, quoi, même dans sa conception. Comment on peut soigner les gens en les envoyant à 500 km de chez eux et en les séparant de leur famille? Parce que c'est quand même ça. Et donc déjà, il y a un impact sur le parcours des gens qui est celui-là. À Saint-Rémy-en-Haute-Saône, sur lequel j'ai travaillé, qui est un petit peu équivalent à Leim, lorsqu'ils sont transférés en 37, ces patients, on les voit mourir en masse. En plus, la Seconde Guerre mondiale n'a pas aidé à ça. Il y a eu énormément de morts de faim, donc c'est un miracle que Marie Denisard y ait échappé, mais peut-être parce que c'était une colonie agricole et que là, il y avait de quoi nourrir des patients. Donc je pense qu'il y a ça qui fait que ce sont des institutions qui sont maltraitantes par essence.
Voilà, ça c'est le laissez-passer qu'elle avait, je crois, quand ils sont partis, le 2 août 1914, elle est partie avec sa mère. Et ses sœurs étaient déjà mariées. Il y en avait une à Paris et l'autre à Bordeaux. Et autorisées se rendre à Paris, départ le 28 ou le 29 août. Ça, c'était en 1914, Denisard Marie, avec sa photo. Alors, Sylvie Denisard, donc je suis l'arrière-petite-nièce de Marie Denisard. Je suis à la retraite, j'habite en Normandie. Voilà. Toujours parlé plus ou moins, alors c'était un peu pas tabou, mais un peu quand même dans la famille de Marie Denisard. Et quand j'étais adolescente, je suis allée voir mon grand-père qui était le neveu de Marie et qui avait récupéré des lettres que Marie avait écrites à son frère notamment. Et donc, pour lui, à l'époque, il m'a dit c'est une machination de Poincaré, c'est pour la raison pour laquelle elle était enfermée à Leim, ce qui n'était pas l'avis d'un de mes oncles qui disait elle était folle, voilà. Et donc ça m'a intéressée, mais j'avais une vie professionnelle. C'est surtout quand j'ai arrêté de travailler à la retraite que j'ai cherché des informations. Je suis arrivée à Leim et donc c'est comme ça que j'ai continué à faire des recherches. J'ai découvert des lettres des neveux de Marie. Des sœurs de Marie et toutes les lettres qu'on a retrouvées dans le dossier médical qui mettent un peu la chair de poule parce qu'elle a vécu quand même l'enfer là-bas. Ça m'a beaucoup interpellée. Je pense qu'elle a été fragile, mais pour moi, elle était pas folle. D'ailleurs, on le voit bien dans ses écrits. Les écrits que j'ai ici, c'est des écrits qui datent de 57, je crois. Elle était enfermée, elle pouvait pas sortir, elle a vécu 32 ans, elle a subi des humiliations, elle a subi des punitions, elle a eu faim, elle a eu froid. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Elle a subi des violences et des punitions terribles en étant entravée. Voilà, on lui a cassé la main, enfin le bras, une première fois, puis une deuxième fois. Enfin, voilà, c'est des choses que, enfin, moi, en tant que femme, je peux pas admettre. Donc là, c'est une lettre que Marie a écrite à sa sœur Madeleine. donc Marie d'Anizard d'Amiens, alors elle s'appelait aussi comme ça, elle, quand elle parlait, à sa sœur Madeleine à Paris de l'Aisne en 1953. Ma très chère sœur, j'ai reçu
d'Hélène. Elle m'annonce j'ai reçu des nouvelles d'Hélène. Elle m'annonçait un paquet de postes qui m'a été remis. Elle s'étonne qu'avec ce que l'on m'envoie, je sois dans la misère. Il faut dire le mot. Ce n'est pas ce que l'on m'envoie dont je puis disposer, mais de ce qui m'est remis, de ce qui est versé dans mes mains. René, qui a été prisonnier en Allemagne, comprendra ce que je veux dire. L'Aisne est en France et gouvernée par des lois françaises? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je réclame en vain ma liberté depuis plus de 25 ans que je suis à l'Aisne et que je n'ai depuis jamais porté une chemise qui m'appartient. Réclamer? Autant parler à un mur. Tu me signales que tu reçois mes lettres non fermées. Je suis dans l'obligation de les remettre ouvertes. Les tiennes me sont remises ouvertes. Tu ne reçois et je ne reçois que celles qu'il plaît de remettre. Il y eut un médecin qui voulait que j'écrive mes lettres sous la dictée de la sœur du calvaire. Et c'est pour ce refus d'obéissance que je fus relégué à la 5e division dite « Grandes Agitées ». Et que pendant des mois, à ce moment-là, vous fûtes sans nouvelles de ma main.
Les traitements, alors les traitements, donc ben c'était extrêmement restreint. Hein, donc à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Par contre, quelque chose qu'on a retrouvé, donc je dirais dans les locaux, dans les greniers, c'est la baignoire, la balnéothérapie, appelons ça comme ça. Donc était le seul traitement donc connu ou en tout cas donc recommandé donc dans le cadre donc de la prise en charge des patients. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait le calme, donc il fallait se reposer, la sieste, et après on avait ses activités. Alors bien évidemment, c'était tenu par des sœurs, donc vous imaginez bien là encore que c'était rythmé aussi par l'église, donc la messe, la prière, etc. Hein, la vie était la même d'un jour à l'autre, toujours la même. Toujours la même. Il n'y avait pas de changement. Alors là, Marie Denisard, elle était enfermée dans son délire. Elle a été doublement enfermée, non seulement dans son délire, mais dans cette quotidienneté de l'asile psychiatrique.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a quand même subi des sévices qui, aujourd'hui, nous paraissent inacceptables?
Alors, je parlerai pas de sévices. Je parlerai pas de sévices, même si à l'heure actuelle, donc quand on lit, on ne peut pas ne pas parler effectivement de sévices. En l'occurrence, je vais vous donner un exemple, c'est l'isolement. Elle a été isolée une fois à notre connaissance dans les dossiers. Il y avait une unité pour les patients agités. Qu'elle ait eu la camisole, sûrement, en tout cas au début, puisqu'elle était extrêmement agitée, puisqu'elle le disait elle-même, qu'elle avait été enlevée, qu'il y avait le complot contre elle, qui expliquait donc cet internement qui était abusif, etc.
Je dors immuablement au milieu des mêmes folles, des mêmes tuberculeuses et syphilitiques. Je couche sans la même paillasse. Je mange dans la
même. Dans toutes ses lettres, elle se plaint de la faim, du froid, de sa souffrance. Et elle se plaint aussi des folles. Et je la cite parce que Marie Denisard ne se considère pas comme malade. Elle ne se considère pas du tout comme folle. Et elle est donc pour elle entourée de personnes malades qui crient parfois pendant la nuit. Donc pour elle, c'est assez terrible parce que quand bien même elle a une forme de paranoïa, elle est consciente qu'elle est internée, enfermée. Et donc, voilà, c'est un quotidien désastreux pour elle. Et à un moment donné, elle écrit dans une de ses lettres qu'elle ne veut pas recevoir sa famille parce que, pour elle, c'est un coupe-gorge.
Elle n'a jamais eu la visite de sa famille. Elle était très liée avec ses sœurs. Elle était très proche de sa mère. Elle n'a pas vu sa mère. Elle n'a jamais été autorisée à sortir. Et elle a une de ses sœurs qui habitait Bordeaux, qui a voulu la faire transférer. Ça n'a pas été autorisé.
Il faut bien imaginer que Marie Denisard était exclue des groupes féministes. Et donc, quand elle est internée, plus personne parle d'elle. Et donc, son seul soutien, sa famille. Même parfois, les sœurs pensent que ça va mieux au vu des lettres qu'elles reçoivent de Marie Denisard. Mais les médecins sont toujours catégoriques. Elle est malade, elle le restera toute sa vie.
Quand quand on relit le dossier, il y a une petite observation tous les mois de l'état de santé donc de Marie Denizard. Et tous les mois, il était noté, donc dans cette année 1959, qu'il n'y avait aucun changement, qu'elle a toujours une attitude revendicatrice et qu'on ne parle d'aucun problème somatique. Elle est décédée le 21 mai 1959 d'une insuffisance cardiaque.
Quel est votre diagnostic à vous ?
Paranoïa. Délire paranoïaque, sans aucun doute. Si je peux me permettre pour un paranoïaque, c'est sans aucun doute.
Et est-ce que la structure de sa personnalité ou son tempérament revendicateur a aussi contribué à faire d'elle la militante oui. avant-gardiste qu'elle a été finalement ?
Absolument. Je pense que sa structure de personnalité donc lui a permis donc de je dirais d'avoir d'une action revendicatrice dans notre société à travers effectivement cette présentation aux élections. C'est parce qu'elle avait effectivement ce type de structure de personnalité qu'elle a osé.
Je pense qu'effectivement Marie Denizard avait une forme de paranoïa, mais encore une fois pour moi Marie Denizard a sombré puisque quand on est harcelé médiatiquement, quand on est face à une précarité parce qu'on consacre sa vie à un militantisme, parce qu'on a conscience de sa place dans la société, de son infériorité et que ça dépend pas de nous, effectivement, bah c'est difficile de rester sereine et de ne pas sombrer dans une maladie mentale et donc la paranoïa. Et donc je pense qu'à un moment donné, toute personne vacille. La question c'est est-ce qu'elle a porté toujours la paranoïa et que ça s'est inscrit dans son militantisme, que ça l'a porté et que ça a pu lui permettre d'aller aussi loin et de représenter ce militantisme et de porter sa voix, ou est-ce que la paranoïa s'est révélée parce que en fait elle était à bout et qu'à un moment donné elle s'en est tellement pris plein la figure qu'elle finit par craquer. Il y a ces deux registres-là qui sont possibles, mais là où je veux bien insister, c'est que la fin de sa vie et ce diagnostic ne remet en rien en cause tout son militantisme et toutes ses actions dans le débat public.
Je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à comprendre le fait qu'on se révolte contre l'inégalité des sexes. Je comprends très bien, alors que je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas. Pour moi, il faut être un peu fou pour accepter un ordre qui nous met dans de telles positions. Et alors, si on se remet au début du 19e siècle, d'inégalité, de violence et de discrimination. Donc, mais cela dit, c'est horrible. Se dire que Marie Denizard est en hôpital psychiatrique quand les femmes ont le droit de vote et que donc elle ne va pas pouvoir voter, alors qu'elle s'est battue pour cela. Et franchement, sans Priscilla da Silva, elle était toujours oubliée.
Je pense que c'était une femme d'avant-garde, enfin pour son temps. Elle était avant-gardiste, féministe. Ouais, je pense qu'elle est née trop tôt pour pouvoir avoir la vie qu'elle voulait. Donc oui, je pense qu'elle est née à la mauvaise époque. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'avais dit au psychiatre, vous savez, si j'avais vécu à l'époque de Marie, j'aurais fini comme elle. Parce que j'ai toujours été un peu rebelle et je comprends, cette femme, elle n'avait pas envie de se laisser faire. Elle n'avait pas envie qu'on décide à sa place. Et moi, c'est pareil.
C'était Marie Denizard, de la présidentielle à l'asile. Deuxième épisode, l'interminable internement. Merci à Bernard Kierzek, Hervé Guillemin, Priscilla da Silva, Mathilde Larère et Sylvie Denizard. Lecture, Anne de Peufeilloux et Charles Morillon. Prise de son, Stéphane Foulon, Nicolas Bonnet, Mineta Diawara et Pierre-Henri. Mixage, Pierrick Charles. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Anne de Pelsin.